Nous avons vu la semaine dernière les mystiques rhéno-flamands et notamment la grande figure de Maître Eckhart. Vous avez vu que c'est une mystique qu'on peut qualifier de spéculative qui s'adresse à une élite de religieux et de moniales qui ont des dons spirituels déjà très développés et qui ont aussi une formation intellectuelle de haut niveau. Il est plus difficile, sinon impossible, à de simples fidèles de suivre ces méditations abstraites sur la naissance du Verbe dans l'âme. Vous vous souvenez du texte qu'on a lu, cette homélie Descartes, c'est quand même de très haut vol. Et de fait, on pouvait comprendre, et on a compris aussi, la vie spirituelle d'une manière beaucoup plus simple, en insistant sur l'amour de Dieu et des hommes, et en proposant un programme spirituel concret et compréhensible, dans lequel la piété devient, voyez, le ressort d'une vie vertueuse conforme aux préceptes de l'Évangile. Donc, vous voyez, c'est plus une contemplation ou une vie spirituelle d'abord de très haut niveau, vécue par des contemplatifs, des contemplatives, mais on s'adresse à tout le peuple chrétien, et puis il n'y a pas cette armature théologique très conceptuelle qu'on avait rencontrée chez Maître Eckhart, et puis chez Tauler, Suzeau et dans une certaine mesure Ruysbroeck. Alors, on va voir un petit peu avec la dévotion moderna, vous voyez, une autre manière de rejoindre le peuple de Dieu, et vous verrez, l'accent est vraiment très différent. Alors, il y a quand même, avant d'en arriver là, il y a un certain nombre de paliers ou de traditions qui sont autant de transitions. Je pense d'abord à la tradition franciscaine, qui a toujours été moins abstraite, qui a un sens concret, notamment chez les spirituels franciscains anglais. On sent bien vraiment le génie concret de ce peuple. Et puis surtout, à partir de l'avènement du nominalisme, vous avez une méfiance à l'égard de la spéculation intellectuelle. Alors du coup, vous voyez, on voit émerger une piété moins ambitieuse et accessible au plus grand nombre. Alors vous avez déjà un nom important, c'est celui de Ludolphe le Chartreux, mort en 1378, qui écrit la Vita Christi, un livre qui va avoir quasiment le même succès que l'Imitation de Jésus-Christ à la fin du Moyen-Âge, et qui écrit dans le prologue un peu son intention, je le cite, « faire goûter le charme de la piété chrétienne ». Ouais, c'est vraiment pas le propos de Maître Eckhart. Ah, vous voyez, faire goûter le charme de la piété chrétienne. Alors la dévotion moderna que nous allons voir maintenant va faciliter et confirmer ce passage d'une mystique spéculative à une dévotion, on va le voir, très méthodique. Alors le grand personnage de cette dévotion moderna, un peu le pionnier, l'initiateur, s'appelle Gérard Groot, un flamand. Mort en 1384. C'est un clerc qui est doté de revenus importants et qui décide en 1374 d'y renoncer pour mener une nouvelle vie. Donc, vous voyez, un homme qui passe par une conversion personnelle, ou en tout cas, une réforme de sa vie. Alors, il se fait ordonner diacre, il commence une vie de prédication. Et très vite, c'est une prédication axée sur la réforme. La réforme de l'Église et d'abord la réforme morale et spirituelle des hommes d'Église. Alors, comme souvent dans des cas comme ça, des cas similaires, il est assez vite suspect au clergé, peut se mêler à ça de la jalousie évidemment, et il se trouve réduit au silence Et donc il meurt, vous voyez, 10 ans après sa conversion. Mais ce qui est très important avec lui, c'est que lui et ses premiers compagnons, parce qu'il a été suivi dans son... Il y a un moment, il décide de partir dans un ermitage, et il est suivi par un certain nombre de compagnons. Ce qui est important, c'est que, vous voyez, ce petit groupe va découvrir une forme nouvelle de vie religieuse, qui va être réalisée un peu plus tard par ce qu'on appelle les frères de la vie commune. Les frères de la vie commune. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un groupement qui accueille des laïcs et des clercs, indifféremment, des hommes et des femmes qui ne font pas de vœux, enfin, je devrais dire, pardon, des hommes qui ne font pas de vœux, et qui ne vivent pas dans des cloîtres. Le but qu'ils poursuivaient double, d'abord leur sanctification personnelle, par la prière, par l'ascèse, par la méditation, et puis le deuxième but qui est le leur, c'est de participer à l'édification de leurs contemporains, aider leurs contemporains, aider le peuple chrétien, si vous voulez, à entrer dans une vie spirituelle adaptée aux personnes. Alors pour cela, ils copient, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils vont copier et relier des ouvrages de piété qu'ils vendent à prix coûtant. Vous voyez, c'est vraiment pas pour s'enrichir, mais pour diffuser largement. Alors, vous allez trouver dans leur production des anthologies, et puis aussi des ouvrages dont ils pensent que ce sont des ouvrages importants. Donc, leur premier projet, vous voyez, diffuser de saines lectures. Et puis, dans un deuxième temps, quand il y aura la concurrence qui va monter, la concurrence de l'imprimerie, eh bien, ils vont changer d'orientation et travailler au soutien spirituel des écoliers, puis à l'enseignement. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cet enseignement ou dans ce projet, dans cette forme de dévotion, cette forme de vie spirituelle que Gérard Groot initie. D'abord, Groot est un homme qui a fréquenté Ruysbroeck. Vous vous souvenez, on en a parlé la dernière fois. Ruysbroeck, c'est d'une certaine façon le pendant des maîtres rhénans pour la Flandre, avec des accents propres. Donc il a lu Ruysbroeck, il a lu les mystiques rhéno-flamands, et en même temps il leur reste étranger. Chez lui et chez ses héritiers, la contemplation perd son aspect intellectuel et s'identifie, j'allais dire, à la charité. Avec la devotio moderna, la piété ne se nourrit plus de théologie trop complexe, trop aride, trop critique. Et donc on peut dire que le savoir va abandonner quelque chose. Oui, mais c'est l'affectivité qui récupère donc ce que le savoir, l'intelligence, la spéculation donc laisse de côté. Vous voyez, il y a une place plus grande à l'affectivité. L'affectivité au sens spirituel du mot, vous voyez, ce lien un peu affectif avec le Christ. La piété enseignée par la devotio moderna est toute intérieure et toute personnelle. Alors, on va voir arriver, vous voyez, émerger. Donc, vous avez repéré un peu la période, hein. On est fin du XIVe, ça va déborder sur le XVe siècle. Donc, on est juste le siècle, hein, pour faire simple, un siècle et demi avant Thérèse d'Avila, avant Jean de la Croix, avant Ignace de Loyola, hein, avant ces grands maîtres du XVIe. Et vous voyez que déjà se met en place une piété intérieure, personnelle, avec la présence de la méditation, de l'introspection même. Vous voyez que la vie spirituelle reçoit une note individualiste jamais aussi clairement exprimée jusque-là. Il y a un tournant, une inflexion en tout cas, une inflexion individualiste qui est très nette dans la devotio moderna. Je le redis, il n'est plus question des hauteurs vertigineuses, des grands sommets de la mystique, mais de la vie active vertueuses, des tâches de charité, d'imitation du Christ vivant parmi les hommes. Vous voyez, des choses qui sont effectivement beaucoup plus à la portée du peuple chrétien et plus faciles aussi à enseigner. Vous avez... Que chaque geste de l'existence soit vécu comme une imitation du maître. Vous voyez, c'est voilà, typique de la dévotion moderne. Que chaque geste de l'existence soit vécu comme une imitation du maître. Et peu à peu, Jésus fera de l'âme dévote sa demeure. Vous avez une très bonne analyse de cette dévotion moderna par Francis Rapp, qui dit ceci: les termes de l'union dont parlaient les spirituels de la génération précédente sont inversés. Et chez eux, il s'agissait de monter, hein, de monter vers Dieu, vers la divinité, pour s'y perdre. Monter vers Dieu pour s'y perdre, c'était un peu le projet des Rénaux flamands. Et bien là, c'est la créature qui s'accroche au combat terrestre de tous les jours, celui de la charité, celui de la vertu, celui de l'ascèse, et qui s'ouvre à Dieu qui vient habiter en elle. Vous voyez, la représentation n'est pas tout à fait la même, c'est même inversée carrément. Affective et pratique, la spiritualité nouvelle est tout naturellement pédagogique. Vous voyez, retenons ces trois adjectifs, affective, on l'a vu, pratique, hein, pratique, et pédagogique. Pédagogique. Alors, je vais vous donner aussi d'autres apports qui viennent avec la dévotion moderne, vous voyez, vous allez voir, c'est vraiment la mise en place. La mise en place d'une vie spirituelle, de ces outils, des choses qui maintenant sont passées dans les mœurs, hein, mais qui s'organisent un petit peu de façon méthodique à ce moment-là. Alors, l'examen de conscience. L'examen de conscience, vous voyez, un peu systématique. On va retrouver ça, évidemment, chez saint Ignace. Donc, l'examen de conscience. L'analyse intérieure. La direction spirituelle. Et une direction spirituelle recommandée auprès du confesseur. La pratique de la méditation s'organise. Elle est graduée jusqu'à devenir une série d'exercices cohérents, et tous les mots sont importants, une série d'exercices cohérents qui jalonnent les étapes du progrès spirituel. C'est un point typique de la dévotion moderna que cette oraison mentale qui n'est plus laissée à la libre initiative de l'âme dévote, mais qui suit un schéma méthodique de considération et de méditation. Alors, il ne faut pas trop durcir non plus, évidemment. Hein. Mais vous voyez, c'est balisé, il y a des exercices à faire, on va retrouver beaucoup de choses un peu plus tard. Alors, dans la ligne de la dévotion moderna, je fais une petite parenthèse pour vous parler d'un ouvrage. Un ouvrage très important de cette période, que vous connaissez tous, peut-être pour l'avoir lu, en tout cas pour en avoir entendu parler, c'est L'imitation de Jésus-Christ. L'imitation de Jésus-Christ. C'est l'ouvrage le plus important composé dans ces milieux-là. Alors aujourd'hui, vous savez ou vous ne savez pas, pendant très très longtemps, il y a eu des grandes discussions pour savoir qui est l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ. Alors, il semble aujourd'hui que l'unanimité soit quasiment réalisée entre les historiens et qu'on soit d'accord pour attribuer l'imitation de Jésus-Christ à Thomas à Kempis. De la Flandre, Thomas à Kempis. Ça permet aussi de dater du coup le livre. Hein. Il aurait été rédigé entre 1425 et 1430. 1425-1430. Pour faire simple, si vous voulez, c'est un écrit contemporain de Jeanne d'Arc, par exemple. Ce fut le livre le plus lu dans le monde chrétien après la Bible. On n'a pas idée, si vous voulez, du succès de ce livre. Pour vous donner quelques chiffres, on connaît de cet ouvrage plus de 700 manuscrits. C'est considérable, considérable. Plus de 700 manuscrits. Et il a fait l'objet de 55 éditions incunables. Alors, je ne sais pas si vous savez, les incunables, ce sont les premiers livres imprimés entre 1450 et 1500. Hein, ce sont les livres, si vous voulez, qui ont été imprimés dans le berceau de l'imprimerie. Hein, c'est ça, l'origine d'incunables. Incunabulum, peut-être, je crois, c'est le berceau. Donc, des livres qui appartiennent, vous voyez, à la période du berceau de l'imprimerie. Eh bien, dans ces 50 années où l'imprimerie commence tout juste, hein, tout juste, en 1500, vous avez 4 imprimeries en tout et pour tout en Angleterre. Vous voyez, on est vraiment au début, les balbutiements. En France, il y en a peut-être un peu plus, encore plus en Italie, en Allemagne, mais c'est vraiment les débuts. Il y a en tout et pour tout, je ne sais pas, dans une région très développée, très avancée comme l'Allemagne, vous avez quelques dizaines d'imprimeries. Mais vous voyez, en 50 ans, 55 éditions de l'Imitation de Jésus-Christ, ça vous donne un petit peu la mesure du succès de ce livre. Il a été écrit en latin et ensuite très rapidement traduit. Alors, de quoi parlent ces 4 livres? Bon, je pense que vous avez tous lu des extraits, au moins de l'Imitation. Je vous donne un petit peu les thèmes principaux. D'une part, les biens et les tentations du monde dont il faut se garder. Inversement, les biens du royaume qu'il faut au contraire désirer et acquérir. Mais on peut dire que le grand thème central, c'est la figure du Christ, comme le titre l'indique. Hein. C'est la figure du Christ, qu'il s'agit d'imiter et de suivre. Donc, vous voyez, on retrouve bien ce projet pédagogique, hein, pratique en même temps. Et affectif au sens où le lien est créé avec la personne de Jésus-Christ et de Jésus-Christ rejoint, non pas comme le verbe hein, des essences, dans la mystique de l'essence des Rénaux flamands, mais le verbe rejoint dans son humanité avec lequel il y a un lien affectif aussi qui est créé. Alors, une chose qui est assez intéressante, c'est que contrairement à beaucoup d'autres livres de la même période, l'Imitation n'est pas d'abord un texte moralisateur. Parce que vous savez, à l'époque, vous avez beaucoup de textes, d'ouvrages, de spiritualité, qui sont, oui, ascétiques, mais ascétiques moralisateurs. Là, on a, effectivement, bon, ça invite à une réforme de vie, mais ça ouvre aussi un véritable chemin spirituel. Et vous avez la prise en compte, dans ce livre, des jeux de la nature humaine et de la grâce. Donc c'est un livre qui mérite tout à fait sa place dans notre parcours. Alors toujours dans cette étude de la Devotio Moderna, je voudrais dire un mot des exercices spirituels. C'est la grande époque des exercices spirituels. Alors, quand je dis exercices spirituels, ne pensez pas pour l'instant à Ignace, hein, on est les décennies qui précèdent. On est toujours au XVe siècle, mais vous allez voir qu'avant Ignace, un certain nombre d'auteurs vont déjà proposer des exercices spirituels. Donc on a vu les premiers maîtres de la Devotio Moderna mettre petit à petit en place une pédagogie de la vie spirituelle. Commence. Et puis petit à petit, vous voyez, ça s'organise de plus en plus, ça se systématise, et on arrive à des exercices systématiques. Donc, Ignace, évidemment, va reprendre le principe et le porter à un degré de qualité, je n'ose pas dire de perfection, mais en tout cas un degré d'achèvement qui dépasse évidemment ceux de cette époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les nombreux traités sur la prière composés à la fin du Moyen-Âge, la méditation est organisée de façon méthodique d'abord, et puis on trouve souvent une progression en trois étapes. Alors, vous verrez, c'est très classique, hein, mais ça se met en place à cette époque. Donc, vous voyez, trois étapes. La préparation. Préparation par la fuite des distractions, par le choix de textes appropriés. Premier point. Deuxièmement, la méditation elle-même, par l'application de l'esprit et de la volonté, les deux. Et enfin, son terme, en dirigeant vers Dieu des résolutions et des désirs ravivés. Vous voyez, la préparation, on s'aide de lecture, on s'aide, on fuit les distractions d'abord. Ensuite, l'étape de la méditation proprement dite. Et puis, il faut que ça débouche sur quelque chose, vous voyez. C'est pour ça, hein, quand je vous dis c'est concret, il faut qu'il y ait des répercussions dans la vie. Alors, un très bon représentant de ce courant, c'est le bénédictin Garcia de Cisneros. Garcia de Cisneros. Qui meurt en 1510. Donc, vous voyez, on commence à entrer dans le XVIe siècle, mais c'est la génération juste avant les grands maîtres espagnols que nous allons bientôt étudier. Alors, je fais une petite parenthèse, hein. C'est un bénédictin, il a été réformateur de l'abbaye de Montserrat, où va passer Ignace de Loyola. Et attention, il ne faut pas le confondre avec un homonyme de la même période, cardinal, le cardinal de Cisneros, fondateur de l'université d'Alcala, celui qui a mis en œuvre la traduction de la Bible d'Alcala, celui qu'on a rencontré pour ceux qui étaient au voyage en Espagne. Alors, ce n'est pas le même, hein, mais ils sont parents, et celui-ci donc, est un bénédictin, réformateur, et il rédige des exercices spirituels. C'est le titre, des exercices spirituels, pour fonder une oraison mentale méthodique. Je vais vous lire un petit passage du préambule. Je crois que vous l'avez du reste sur la feuille que je vous ai laissée, non ? Oui ? Alors comme ça, ça tombe bien. Vous pouvez reposer vos mains et nous lisons ensemble donc ce petit extrait du préambule. Dans ce livre, frères bien-aimés, nous exposerons comment l'homme dévot doit s'exercer dans les trois voies purgative, illuminative et unitive, et comment par certains exercices, la méditation, la prière, la contemplation, régulièrement distribuée entre les jours de la semaine, il pourra graduellement s'élever à la possession de la fin désirée, à savoir l'union de l'âme avec Dieu, que les saints appellent la sagesse vraie et cachée. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant, le but, c'est la contemplation, hein, donc quand même le but est élevé, c'est l'union de l'âme avec Dieu, donc on a vraiment, on est là en présence d'un ouvrage vraiment spirituel, et en même temps, vous voyez, typique de cette période, typique un peu du projet de la dévotion moderna qui se prolonge encore, hein, fin 15e, début 16e, nous exposerons comment l'homme dévot doit s'exercer. Alors voilà, on balise bien trois voies, d'abord purgative, ensuite illuminative, ensuite unitive, ensuite il y a des exercices à mettre en œuvre. Alors là aussi c'est gradué, la méditation, la prière, la contemplation, c'est distribué entre les jours de la semaine, vous voyez, c'est très organisé. Très méthodique. Voilà. Typique. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez, on est, là aussi, c'est un ouvrage de transition. On est dans la lignée de la dévotion moderna, et vous voyez qu'avec cette mention de la contemplation, avec le but qui est donné, on est à la transition entre dévotion moderna et les temps modernes. L'oraison des temps modernes se profile déjà. Autre auteur espagnol, intermédiaire et bon représentant du groupe modéré chez les Alumbrados. Alors, je vais vous en reparler un peu de ces Alumbrados. On traduit ça par les Illuminés. Et tout de suite, on pense en tête les Illuminés espagnols pourchassés par l'Inquisition à cause de leur panthéisme, à cause d'un quiétisme exacerbé, qui peut même verser dans l'illuminisme complètement, complètement loufoque, avec chez certains même l'immoralisme, bref. Mais sans aller jusque-là, vous avez des hommes et des femmes, qui ont été des priants effectivement, qui donnent une large part à l'abandon au travail de la grâce, à l'abandon à l'action de Dieu. Donc, on n'est pas tout à fait dans le quiétisme, il y a une part très importante laissée à l'abandon, c'est un peu de ce groupement, si vous voulez, de l'aile modérée, on va dire, ou du groupement modéré des Alumbrados, c'est dans ce groupe-là qu'appartient Francisco de Osuna. Francisco de Osuna, frère mineur et l'auteur des abécédaires dont Thérèse d'Avila sera une lectrice. Les abécédaires. Mais il y a eu quantité d'autres auteurs, quantité d'autres lecteurs, pardon, et même des très grands. Alors, vous voyez, on est abécédaire, ne serait-ce que le nom, ça dit bien un peu la perspective pédagogique. On apprend à, vous voyez, c'est apprendre à prier. Alors, d'autres auteurs, Luis Barbo en Italie, tous ces auteurs, ça c'est une autre donnée à avoir en tête, donc vous voyez, sont des pédagogues de la vie spirituelle, ou en tout cas ils cherchent à la stimuler, et en même temps leur but est plus large, leur but c'est la réforme de l'Église. Donc vous voyez, c'est travailler à la réforme de l'Église en suscitant la vie spirituelle, en encourageant le peuple de Dieu à entrer dans cette vie spirituelle. Pour eux, je le redis, la réforme de l'Église, et là on est fin 15e, début 16e, la réforme de l'Église, pour l'instant, est bloquée dans sa tête. Ceux qui devraient la mettre en œuvre, le pape, les cardinaux, la curie, si vous voulez, les évêques, ne font rien, semblent impuissants, donc la réforme semble bloquée dans sa tête. Eh bien, on va travailler à la réforme spirituelle de l'intérieur, au moins faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit petit à petit des ordres anciens, traditionnels, des bénédictins, puis dominicains, puis franciscains, adopter la pratique de la méditation mentale comme exercice de communauté à cette période, du moins pour ceux qui rentrent dans un projet de réforme. Vous voyez, ils ont évidemment leur vie chorale, l'office divin, mais vous voyez, l'horizon mental, c'est ça qui est intéressant, avant les grands maîtres qu'on va voir, ayez ça en tête, retenez ça, avant les grands maîtres, Saint Ignace, Thérèse d'Avila, etc., François de Sales pour la France, avant ces grands maîtres, l'horizon mental, ou plutôt la méditation mentale discursive, entre petit à petit dans la vie de l'Église et déjà dans la vie des religieux. Y compris chez les bénédictins. L'oraison mentale. Ce qui me permet de dire, vous voyez, c'est que la grande réforme tridentine, dont on va parler au XVIe siècle, à laquelle on associe spontanément des créations nouvelles, les capucins, les jésuites, ou des ordres réformés, la réforme du Carmel, eh bien, cette réforme a été précédée par les ordres anciens, du moins par les branches réformées des ordres anciens. Et il ne faut pas oublier trop tôt les franciscains, les bénédictins, les dominicains qui préparent le terrain. Voilà. Alors, J'en ai fini avec ce chapitre et nous passons au grand chapitre 2, Ignace de Loyola et la spiritualité jésuite. Alors, il se trouve que vous allez, un bon nombre d'entre vous, avoir beaucoup mieux, beaucoup plus riche, beaucoup plus développé à partir de demain avec les sessions du Père Huet. Ça n'est pas gênant. Il donnera beaucoup plus sur Saint Ignace. Ce que je vais peut-être développer et que lui n'aura pas le temps de faire, ça préparera très bien la session, c'est vous donner un peu le cadre général, hein, le cadre à la fois d'histoire de la spiritualité, et comme ça, vous entrerez, si vous voulez, vous situerez Ignace de Loyola, non pas comme un aérolithe qui tombe comme ça du ciel, dont on ne sait pas trop qu'est-ce que vivait l'Église dans laquelle lui-même avait sa place, qu'est-ce qui se vivait à la même période, on va un peu le voir. D'abord, un mot du cadre européen du XVIe siècle. Un mot du cadre européen. Vous voyez, on quitte le Moyen-Âge. Ça y est, on quitte le Moyen-Âge. On entre dans ce qu'on appelle les temps modernes. Alors, pour un historien, les temps modernes, c'est ce qui s'étend du XVIe siècle. Les points de repère, si vous voulez, on peut en prendre plusieurs. Hein. Naissance de l'imprimerie, c'en est un. Fin de la Reconquista en Espagne, c'en est un. Les grandes découvertes, c'en est un, ou la rencontre, pour dire ça autrement, entre les Indiens d'Amérique et les Européens. Voilà, un peu toutes ces dates. La chute de Constantinople aux mains des Turcs, donc fin de l'Empire chrétien d'Orient. Tout ça, vous voyez, on est entre 1453 et 1492. Voilà. On peut dire qu'à ce moment-là, on quitte le Moyen-Âge, et on entre dans ces temps modernes qui vont aller jusqu'à la Révolution française. C'est l'autre terme. Alors, première donnée, nous sommes dans le temps de la réforme catholique. Autrefois, on disait la contre-réforme. Le mot ne convient pas. On veut dire la réforme catholique. L'axe et le centre historique de la réforme catholique, c'est évidemment le Concile de Trente, qui se déroule entre 1545 et 1563. Hein, 1545 et 1563. La réforme protestante a provoqué pour une large part cette réaction et l'ouverture du concile. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est que avant même la réformation protestante, avant même Luther, si vous voulez, il y avait déjà un désir universel de réforme qui travaillait l'Église depuis le milieu du XVe siècle. Un désir généralisé de réforme. Alors, le drame, c'est que ce désir ne débouchait pas, ou pas suffisamment. Qu'il y avait des blocages, et des blocages très importants, je vous l'ai dit, notamment dans la tête. Hein ? Mais déjà, la réforme a gagné certains ordres religieux à travers ce qu'on appelle le phénomène de l'observance. L'observance. Dans la plupart des grands ordres religieux, vous avez des observants et ce qu'on va appeler les mitigés. Vous aurez ça chez les carmes, par exemple, plus tard. Mais pareil chez les dominicains, Savonarole, voilà, typique. Savonarole, dominicain à Florence, lance une réforme, alors locale, hein, mais importante, où le projet, c'est de revenir à l'observance originelle, hein, à toute la règle primitive, l'observance. Et puis, il y a aussi des initiatives intéressantes en Espagne et en Italie, avec la naissance de nouveaux instituts cléricaux, avec aussi ce qu'on va appeler en Italie les compagnies du divin amour. Juste avant la rupture opérée par Luther à partir de 1517, des humanistes chrétiens, dont Érasme et la tête de proue, la grande figure, s'emploient aussi à une réforme, à une tentative en tout cas de réforme. De quoi s'agit-il chez ces humanistes chrétiens ? Bien, il s'agit de réagir contre les dérives païennes de l'humanisme. Vous savez, l'humanisme, c'est une grande chose, une grande réalité, mais il y a eu plusieurs courants. Il y a eu un courant qui voulait retrouver dans l'Antiquité le modèle, mais dans l'Antiquité, j'allais dire, en contournant le christianisme. D'une certaine façon, c'était revenir à avant le christianisme. Alors là, évidemment, c'est un projet assez païen. Et puis, vous avez des... alors, on les retrouve ici. Des humanistes chrétiens qui veulent travailler à la réforme de l'Église. On va voir avec pas mal d'ambiguïté aussi. On va voir un petit peu. C'est mélangé. Ils veulent vraiment une réforme de l'Église. En même temps, il y a une perspective assez critique à l'égard de beaucoup de formes traditionnelles de l'Église. Et chez Erasme notamment, vous avez des lignes, et plus que ça, des passages entiers, et même une perspective assez critique vis-à-vis, par exemple, du monachisme. Bon. Mais ceci étant, ces humanistes chrétiens encourage le christianisme intérieur. Alors ça, c'est, vous voyez, une formule importante. Le christianisme intérieur. C'est la dénonciation du formalisme. Il ne s'agit pas d'être chrétien simplement en suivant certains rites, en adoptant ou en présentant les formes extérieures du christianisme. Non, il faut un christianisme intérieur. Bon. Donnée importante. Et pour cela... la lecture de l'Écriture. Alors là, les humanistes chrétiens, qui sont des philologues, qui travaillent beaucoup, surtout Erasme, hein, à rétablir le texte critique de l'Écriture, par-delà la Vulgate, voilà. C'est lire l'Écriture. Alors, je vous ai mis un autre texte dans votre feuille de route, vous voyez, c'est un passage d'une des préfaces du Novum Instrumentum. Alors, qu'est-ce que c'est le Novum Instrumentum ? C'est tout simplement la nouvelle traduction que fait Erasme, nouvelle traduction latine à partir du grec, que fait Erasme du Nouveau Testament. Et il l'appelle, là aussi par rigueur critique, le Novum Instrumentum. Alors, lisons ensemble, vous verrez, c'est typique du projet des humanistes chrétiens. Bienheureux celui que la mort surprend tandis qu'il médite les saintes lettres. Notre poitrine doit en être tout assoiffée. Nous devons les étreindre, nous y atteler comme au joug. Vous savez ce que c'est le joug? C'est, vous savez, les bœufs ont une pièce de bois là, et puis ils tirent dessus. Voilà. Il faut que nous soyons comme des bœufs, j'allais dire, l'image n'est pas très belle, mais enfin, dans le même rapport avec l'Écriture. Vous voyez, qu'elle soit sur nos épaules, vous voyez. Donc, on reprend. Nous y atteler comme aux joues, les baiser, mourir en elle, nous convertir en elle, s'il est vrai que nos études passent par nos cœurs. Qui ne peut y parvenir, mais qui ne peut si seulement il le veut, qu'au moins il adore ses lettres comme un reposoir du cœur divin. Donc, vous voyez, très grande place donnée à l'Écriture. Alors en même temps, il y a des limites. La limite, c'est que quand on lit Erasme, vous savez, on a un peu le sentiment que la réalité du péché originel, la réalité de la grâce sanctifiante, ou la réalité de l'efficacité ex opere operato des sacrements, s'estompe un peu, vous voyez. On a l'impression à le lire que ce qui est important, c'est une imitation morale de Jésus, vous voyez. Comme si Jésus, c'était... oui, le grand modèle de toute vie chrétienne, ça on est d'accord avec lui, mais comme si on perdait un peu de vue la réalité ontologique de la grâce, vous voyez, l'œuvre de grâce. Alors, ça ne veut pas dire qu'il le nie complètement, mais c'est une dimension qui n'est plus trop présente, vous voyez. L'importance primordiale accordée au moralisme. Alors ça, oui, vous voyez, vie vertueuse, christianisme intérieur. L'importance primordiale accordée au moralisme n'amène-t-elle pas Erasme à concevoir le christianisme d'abord comme une forme supérieure de morale, où s'intègre l'éthique de l'Antiquité en ce qu'il y a de meilleur. Pour Érasme, là aussi c'est un petit exemple, vous voyez, mais pour Érasme, Socrate est un saint. Un saint d'avant le Christ, vous voyez, un saint païen. Mais on voit bien la réalité de la grâce. Bon, Érasme va dire, mais regardez Socrate, il a vécu une vie tellement, ou les maîtres stoïciens, vous voyez, c'est une vie tellement, tellement droite, tellement morale, que bah, il mérite d'être appelé saint. Et on perd de vue la réalité proprement de grâce qu'opère le baptême. Un petit peu, vous voyez, c'est le risque, en tout cas, la tendance. Voilà. Alors, Louis Cogniet, là aussi grand historien de la spiritualité, pose la question aux humanistes d'une divergence, alors je le cite, une divergence surtout apparente entre la recherche de l'équilibre humain par la sagesse, voilà la ligne un peu des humanistes, et le dépassement de l'homme par la folie de la croix. Ben oui, la folie de la croix, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'en font les humanistes? Point d'interrogation. Hein. Vous voyez, ce premier humaniste chrétien a son... il faut inscrire comme point très positif qu'il est très sincèrement attaché à la personne et à l'imitation de Jésus, du Christ, ça oui, et en même temps, ben, il risque de perdre de vue des points au moins aussi importants. Ce qui advint de toute façon, c'est que ce premier humaniste chrétien ne va pas survivre à la grande crise de la Réformation. D'une certaine façon, Érasme et tous les autres vont être mis en demeure de choisir leur camp. Et donc la voie qu'ils avaient essayé d'ouvrir, en fait, n'aura pas d'avenir, et au moment où vraiment les confessions commencent à apparaître, et à apparaître très nettement, et à se différencier, et non seulement à se différencier, mais à entrer en lutte l'une contre l'autre, eh bien, on va leur demander, et ça va être la question qu'on va poser à Érasme, alors, choisis ton camp un peu, montre que tu es catholique, écrit. Et ça, c'est son ami Thomas More qui va un peu le pousser comme ça. Alors, c'est intéressant, je cite Thomas More, parce que vous voyez, c'est un homme de l'humanisme chrétien, et chez lui, en même temps, vous avez le saint, parce que rien n'est perdu de l'héritage médiéval. Donc, comme quoi, il y avait aussi une place, hein, chez les humanistes chrétiens, il y avait une possibilité d'un chemin qui a tourné court, hein, mais il y avait la possibilité, vous voyez, en gardant le meilleur de l'héritage médiéval, à l'égard duquel Érasme est très critique. Très critique par rapport aux scolastiques. Il se moque de la théologie. Alors c'est vrai que la théologie de l'époque est complètement sclérosée. Hein. La théologie du 15e est sclérosée. Mais Thomas More est plus l'homme de l'équilibre. Voyez. Et de fait, il va mourir martyr. Donc chez lui, la folie de la croix, c'est bien intégré, évidemment. Alors, on va revoir beaucoup plus tard, je dirais, l'humanisme chrétien, mais alors là, assumé pleinement, le meilleur de l'humanisme chrétien, assumé par François de Sales. Vous voyez. On peut dire que voilà, mais des décennies plus tard, très belle figure d'humanisme chrétien, François de Sales, avec le meilleur de l'humanisme, et évidemment sans rien perdre non seulement la foi, mais aussi de la vie spirituelle profonde catholique. On peut dire aussi que les collèges jésuites vont être des grands lieux de formation de l'humanisme chrétien, des lieux de fidélité à un certain humanisme chrétien. Bon, alors on avance quand même. Donc vous voyez... Première donnée, je vous ai dit, on entre maintenant dans la période de la réforme catholique. Deuxième donnée que je voulais voir avec vous, c'était avoir un petit aperçu des humanistes chrétiens. Troisième donnée, c'est, je reviens donc à la réforme tridentine, et là je crois qu'il y a des choses importantes à vous dire. La réforme tridentine, comme son nom l'indique, s'est appuyée sur l'œuvre du Concile de Trente. Œuvre à la fois doctrinale et disciplinaire. Vous avez les deux volets. Hein. Un volet disciplinaire. Exemple, la création décidée des séminaires, l'obligation faite aux évêques à remplir vraiment toutes leurs tâches pastorales, voilà, volet disciplinaire, et puis volet dogmatique avec l'affirmation des grands points de la foi catholique qui étaient niés par les protestants. Donc les deux volets. Mais voyez, si le concile de Trente a débouché sur une vraie réforme, c'est à la fois parce que c'était un concile de grande valeur, premier point. Deuxième point, parce que la succession, toute une succession de papes du XVIe siècle ont travaillé avec détermination, continuité et cohérence à la mise en œuvre du concile. C'était le deuxième atout. Le troisième atout, c'est les fondations religieuses nouvelles. Je redis, les capucins notamment, les jésuites, qui vont fournir un personnel qualifié pour la mise en œuvre du concile, de la réforme. Et puis, il ne faut jamais l'oublier, si le concile de Trente a donné tout son fruit, c'est parce qu'il y a eu aussi un renouveau spirituel qui lui a donné son âme, qui lui a donné son dynamisme, qui lui a donné son élan. Vous voyez, c'est là où on rejoint notre sujet. La réforme catholique dans laquelle maintenant on va évoluer, avec tous les auteurs qu'on va rencontrer, les grands courants qu'on va rencontrer, eh bien, cette réforme catholique n'a pu être ce qu'elle a été et porter ses fruits jusqu'au XIXe siècle, en fait, même jusqu'au début du XXe siècle, que parce qu'il y a eu des grands saints spirituels qui ont donné l'élan. Sans quoi, ça aurait été des textes qui seraient restés peut-être des textes morts. Ça, c'est très important. Voilà. Autre point important au XVIe siècle et de plus en plus au fur et à mesure que la réforme catholique se déploie, c'est l'extraordinaire prégnance de la religion sur toutes les expressions de l'activité humaine. Donc là, vous voyez, on va parler de spiritualité, c'est ce qui nous intéresse, l'histoire de la spiritualité, mais tout se tient. Et vous avez au XVIe siècle, comme par hasard, une efflorescence artistique extraordinaire d'art sacré. On l'a constaté en Espagne, mais tout l'art baroque, et c'est vrai de l'architecture, c'est vrai de la peinture, c'est vrai de la sculpture, c'est vrai de la musique. Et tout ça, c'est inspiré vraiment par cet élan spirituel. La religion, non seulement imprègne tout, mais vous voyez, donne une âme. Et facteur de création. Alors c'est vrai aussi de la littérature, c'est vrai de tout. La parenthèse est refermée de l'espèce d'anthropocentrisme teinté d'indifférence religieuse qu'on pouvait remarquer à la fin du Moyen-Âge. On peut dire qu'au XVe siècle, en Italie notamment, on avait une sorte de résurgence du paganisme ou d'indifférence religieuse. Auteur typique, voyez, de cette période intermédiaire, c'est Machiavel. Machiavel, c'est une politique vraiment dans laquelle on fait abstraction complète du christianisme. Alors, vous me direz, ça va continuer après. La politique d'un Richelieu, la politique d'un... oui, c'est une réelle politique où tout cardinal qu'il soit, on voit les intérêts politiques compris en faisant abstraction des données religieuses. Mais si vous voyez Philippe II, même si on peut discuter évidemment sa politique, ou les rois catholiques, vous avez des politiques qui sont vraiment imprégnées ou qui ont une finalité religieuse évidente. Ça, voilà, typique de cette période-là. L'époque de la réforme a été appelée l'époque des saints. Alors, c'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de figures de sainteté à cette époque, mais c'est aussi parce que, vous voyez, l'idéal de l'homme du XVIe siècle, ou de l'homme héroïque, en tout cas de l'homme qui a un projet un peu élevé, ça n'est plus le raffinement de l'humanisme. ça n'est plus l'audace des chevaliers, c'est la sainteté. Les meilleurs, voyez, à cette époque-là, c'est un projet de sainteté qui les anime. Pour ça, on peut dire vraiment l'époque des saints. Et autre chose peut-être importante à dire, c'est que cette sainteté, c'est souvent une sainteté cléricale. On va voir beaucoup de figures de sainteté qui, il y a quelques exceptions féminines, évidemment, mais c'est des saintetés cléricales. Autre trait très important pour comprendre un peu cette période, c'est la naissance et le développement de l'imprimerie qui permet au nombre des écrits spirituels de s'accroître prodigieusement. On estime à peu près à 40 000 le nombre de titres publiés sur un siècle entre 1450 et 1550. C'est énorme, hein ? Et dans voyez, ça commence tout juste, hein, et pourtant il y a déjà un bon débit. Eh bien, dans ce pourcentage, la part des écrits religieux est considérable. Je ne vais pas les chiffres, mais c'est une majorité de livres religieux. Alors, les conséquences sont grandes pour la vie spirituelle, multiples. C'est que d'abord, les chefs-d'œuvre anciens de la littérature spirituelle sont diffusés. Donc on diffuse des écrits anciens. Et puis on va aussi, l'encouragement est fait aux auteurs de publier, donc d'écrire du neuf aussi. Puisqu'ils sont assurés au moins assez facilement de trouver un public. Il y a un public porteur, voyez. Alors, difficulté pour l'étude, c'est la masse. Plus on va avancer, évidemment, plus c'est difficile d'étudier l'histoire de la spiritualité, parce qu'il y a quantité d'auteurs, et quantité même de bons auteurs. Donc, c'est un peu la gageure. Donc, une des conséquences de ça, grâce au livre, c'est que la vie spirituelle se démocratise. Et l'exemple typique de ça, François de Sales, l'introduction à la vie dévote, écrit pour le peuple de Dieu, il le dit, on va le voir un peu plus loin, mais grâce au livre, voyez, ça peut être diffusé, grâce à l'imprimerie, relativement bon marché. Il ne faut pas rêver, hein, dans les campagnes, vous ne trouvez pas comme ça des livres dans toutes les maisons, loin de là, mais on peut dire que le niveau de la bourgeoisie des villes, maintenant achète des livres. Typique de ça, vous voyez, les congrégations mariales jésuites vont rassembler tous les milieux. Ou typique de ça, Saint Jean de la Croix qui écrit son ouvrage le plus élevé, La Vie Flamme, pour une laïque. Vous voyez, ça dit quelque chose. Effet toujours de l'essor de l'imprimerie, le spirituel chrétien recourt désormais aux livres comme à ses aides, à ses auxiliaires les plus précieux. Je vous donne un tout petit exemple. C'est Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila qui fait allusion à 18 années de sa vie et qui dit ceci, qu'elle n'osait jamais se mettre en oraison sans un livre. Et c'est ça qui est très intéressant. Sans un livre, on aurait été quelques décennies plus haut dans le temps, elle aurait dit sans mon livre, si elle en avait eu un. Son livre, ça aurait été un livre d'heures. Elle en aurait eu un et un seul. Ça aurait été son livre. Là, elle dit sans un livre. Elle en a eu quantité qui ont passé entre ses mains. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Et il ne faut pas perdre de vue ça pour comprendre la période. Alors, dernier point, et puis on va arrêter, c'est que désormais, les écoles de spiritualité peuvent être classées pour une bonne part selon les nations et non plus selon les ordres religieux. Vous voyez, quand on a travaillé jusque-là, on disait, voilà, les dominicains, on va un peu continuer, évidemment, pour simplifier, on va présenter la spiritualité ignatienne, la spiritualité carmélitaine réformée, etc., etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est l'émergence des nations. Pas d'abord comme réalité politique, exemple Allemagne, exemple Italie, ce n'est pas encore des réalités politiques, mais c'est des réalités humaines. On peut dire qu'il y a désormais, les spiritualités sont marquées par un pays, par un génie national, par un tempérament national, par une certaine façon de vivre la spiritualité dans un pays. Vous voyez ? Par un ensemble de conditions qui font que, ben voilà, chaque nation a sa manière de vivre la vie spirituelle. Et plus que ça, on va voir que chacune des nations a un peu son âge d'or. Au XVIe siècle, ça va être vraiment l'âge d'or de l'Espagne, de l'Italie pour une bonne part. La France va prendre le relais au XVIIe, XVIIIe, un peu au XIXe. Bon. Vous voyez, il y a des périodes comme ça. Voilà. Alors, je fais juste une petite... c'est une information pour vous redire que vous avez sur l'ordinateur le scriptum du cours. Donc, vous l'avez, ça s'appelle cours 2010-2011. Donc, vous avez le cours que vous pouvez prendre avec une clé USB. Non seulement le cours de cette année, mais le cours de l'an dernier, pour ceux qui voudraient l'avoir. Et non seulement les deux cours, mais aussi les feuilles de route. Je les mets systématiquement. Donc, et avec le cours, vous avez une bibliographie à la fin, bon, qui est encore incomplète, mais que j'en recherche.
La semaine dernière, oui, hier, j'ai eu le cours de l'année dernière seulement. Je ne sais pas si c'est maintenant.
Eh oui, c'est depuis hier, je l'ai mis.
Okay. Est-ce que vous considérez Jean Sorette comme faisant partie de cette préparation?
Jean Sorette, j'avoue, je ne le connais pas. Je ne connais pas.
Parce que ça correspond à la période et j'avais l'idée de la tienne. Et comme c'est lui qui a été à l'origine des premières carmélites.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. C'est les... ça alors, effectivement, il est bien dans cette période, j'allais dire, la pré-réforme. Parce que les mots sont piégés. Pendant très très longtemps, quand on disait la réforme, c'était sous-entendu la réforme protestante. Sous-entendu, on a commencé à se soucier de réformer l'Église qu'en étant protestant. Et puis, face à ça, il y avait la contre-réforme, qui était uniquement réactionnaire. Alors, les historiens, de plus en plus, vous avez toujours des vieux... des gens qui sont attachés à l'ancien, mais de plus en plus, on parle de la réformation, pour parler, si vous voulez, de la réforme protestante, et une pré-réforme catholique, une réforme catholique, en disant bien que c'est vrai que dans la réforme catholique, il y a une part de réaction, on réagit à, mais c'est plus ample que ça. Il y a aussi une part qui est proprement positive, qui ne se situe pas simplement par rapport aux protestants pour s'opposer